À la suite d'une émission au cours de laquelle je citais le début du discours de Paul à Athènes, ce discours rapporté par le livre des Actes au chapitre 17, j'ai reçu une lettre d'un auditeur, d'une ville que je connais d'ailleurs fort bien, ce qui, je l'avoue, me rendait la lettre sympathique a priori, mais son contenu m'a pour le moins surpris, et il m'a semblé qu'il n'était pas inutile de reprendre le sujet sous forme de réponse, car il est bien certain que pour un avis qui s'exprime par écrit, il en est plusieurs qui ne s'expriment pas et n'en sont pas moins semblables. J'ai constaté, m'écrit le correspondant dont j'ai parlé, que vous mettez en pratique la nouvelle version second. Avant d'aller plus loin, je voudrais sans attendre dire à nos auditeurs, nos amis, que lorsque nous citons la Bible à Radio Oméga, nous ne le faisons pas avec un a priori en faveur d'une version plutôt que d'une autre. Les versions ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Nous utilisons une traduction dans la mesure où elle nous paraît plus accessible pour nos auditeurs. Certains d'entre eux ont une réelle connaissance de la Bible, mais d'autres l'entendent citer pour la première fois. Notre but ne doit-il pas être de la rendre aussi clairement que possible, en même temps qu'aussi fidèlement que possible? Mon correspondant me reproche de n'avoir pas cité le texte de la version Darby. Je la connais et je l'apprécie comme version d'étude, et elle est souvent très littérale et, par là, fort précieuse pour la recherche de la pensée initiale du texte. Mais elle utilise par là même un langage souvent difficile pour l'homme d'aujourd'hui. Pour prendre l'exemple qui poussa mon correspondant à s'adresser à moi, il faut mentionner que la traduction de John Nelson Darby est littérale, mais ne rend pas, dans ce cas, la pensée globale du texte. Paul, s'adressant aux Athéniens, leur dit en effet « Hommes Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux ». Le contexte montre bien que l'apôtre, dans ce cas, commence par leur faire un compliment. Il aurait été mal reçu s'il leur avait d'emblée adressé des reproches, mais il est vrai que le mot que Paul utilisa a deux sens que tous les hellénistes ont reconnus. Dans un bon sens, il signifie « religieux », littéralement « craignant les dieux ». Dans un sens péjoratif, il veut dire « superstitieux » et peut être traduit « craignant les démons ». Mais le mot « démon » à l'époque n'avait pas la signification unilatérale qu'il a aujourd'hui. Darby a choisi ce dernier sens. La version anglaise dite « autorisée » a choisi « superstitieux ». Mais ce sens ne correspond pas bien à la teneur du discours de Paul. En sorte que, dans ce cas-ci, il vaut mieux préférer la traduction proposée par Louis II. Chers amis, vous comprendrez que si j'accepte de donner ces précisions à la radio, c'est dans un autre but que celui de préciser un texte isolé. En fait, ce qui m'inquiète et contre quoi j'aimerais mettre nos auditeurs en garde, c'est l'esprit qui anime le correspondant qui me reprochait d'avoir utilisé second. À partir de ce reproche, il cite un nombre important de textes bibliques qui parlent des faux docteurs, faux apôtres, ouvriers trompeurs, de ceux qui égarent le troupeau et qui ont la langue empoisonnée, etc. Et il nous dit, d'ailleurs avec politesse, que ces textes s'appliquent très bien à nous et que nous sommes les Athéniens voués au culte des démons, qu'il serait temps que nous produisions de bons fruits, dignes de la repentance. Je suis étonné, je ne vous le cache pas, est-ce à dire que nous soyons sans reproche? Bon, certainement pas. Mais avec la grâce du Seigneur, nous portons de bons fruits et notre ambition est certainement d'être fidèles au Seigneur dans toute la mesure de nos moyens. Je voudrais l'inviter, lui et ceux qui pourraient partager son opinion, à se demander un moment quel but poursuivent les faux apôtres et ouvriers trompeurs dont parle la Bible. Elle indique qu'ils cherchent leurs propres intérêts. Maintenant qu'il me soit permis de vous demander quel intérêt poursuivons-nous à ce micro ? Quel intérêt poursuivons-nous à Radio Oméga ? Parlons-nous d'une église particulière ? Cherchons-nous à faire des adeptes ? Demandons-nous votre argent? Nos auditeurs ont-ils une idée seulement des sommes astronomiques que représente fût-ce un seul quart d'heure d'émission? Il y a, dans la lettre de mon correspondant, une légèreté regrettable, un jugement grave porté sans fondement. Est-ce que le fait de choisir de citer la Bible dans une version plutôt que dans une autre fait d'un homme un faux docteur, un faux apôtre? Si cet ami avait connu un peu le grec, il aurait eu la possibilité de remonter aux sources. Il aurait réservé son jugement. Que des hommes religieux pratiquent aujourd'hui, je cite ce correspondant, la tromperie, le commerce des âmes, c'est malheureusement vrai. Qu'ils soient même nombreux à le faire, je ne le nierai pas. Mais soyons plus que prudents dans nos jugements. Acceptons aussi qu'un autre puisse avoir une autre opinion que nous, être pourtant parfaitement sincère. Admettons même que c'est peut-être nous, dans certains cas, qui sommes dans l'erreur. C'est cela qui s'appelle la tolérance. Ne me comprenez pas mal. Je ne considère pas la facilité avec laquelle on accepte aujourd'hui n'importe quoi comme étant un modèle à suivre. Pensez que ce que l'on croit a peu d'importance, ce n'est pas de la tolérance. Celui qui croit n'importe quoi sans savoir pourquoi n'est pas tolérant, il est indifférent. La tolérance est le fait de ceux qui ont des convictions profondes mais qui admettent que d'autres aient le droit d'en avoir d'autres, avec le même amour de la vérité. J'espère que vous voyez la différence. Malheureusement, et je dis, il existe de faux docteurs, de faux apôtres, et j'invite mon correspondant à s'interroger, à se demander si, sans s'en rendre compte, il n'est pas victime de certaines de leurs doctrines. Ce n'est pas une affirmation, loin de là. Je ne connais pas ses convictions, ni le milieu religieux auquel il appartient, mais je m'interroge à cause de l'exemple qu'il cite dans sa lettre. Comme preuve de notre pratique erronée et mensongère, il donne en effet un exemple, un seul, Noël. Culte païen, écrit-il, que faut-il en penser ? Il est dommage qu'il ne nous ait pas écoutés lorsque nous avons parlé de Noël, car nous sommes les premiers à dénoncer le caractère païen, économique, show business de cette fête. Nous savons très bien qu'elle n'est pas la source dans l'enseignement du Christ. Nous savons fort bien que Jésus n'est probablement pas né un 25 décembre. Nous savons aussi que ce jour était fêté par les disciples de Zoroastre, par exemple, parce que ce jour-là, les jours commençaient à allonger de nouveau et qu'ils y voyaient la victoire de la lumière sur les ténèbres. Mais nous pensons qu'il n'est pas illégitime de mettre un jour à part pour fêter d'une manière spéciale le fait que Dieu soit venu dans le monde en Jésus-Christ. Et puisqu'il faut bien choisir un jour, pourquoi pas le jour du solstice d'hiver ? Dieu, heureusement, est bien plus tolérant et moins mesquin que nous. Tenez, les premiers païens à être venus adorer Jésus, eh bien mon correspondant sait-il qu'ils étaient ? Des mages, des prêtres de l'ancien royaume, des Mèdes et des Perses précisément, des gens qui appartenaient à la doctrine de Zarathoustra et qui, le 25 décembre, fêtaient la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et il n'a pas dédaigné, je parle de Dieu, dédaigné les appeler, aller les chercher, si j'ose dire, avec une étoile pour les conduire jusqu'à Bethléem. Noël est une fête païenne, bien sûr. Et si on y vit en païen ? Mais chaque journée de notre vie, même le 25 décembre, peut devenir une journée consacrée au Seigneur. Chaque jour doit être sanctifié, vous ne croyez pas ? Dans l'ancienne alliance, au temps de la loi, Dieu demandait en symbole, la loi était l'ombre des choses à venir. Eh bien, un dixième des biens des enfants de son peuple, c'était la dîme. Il leur demandait un douzième des tribus, c'était la tribu de Lévi qui formait la compagnie des sacrificateurs. Il leur demandait un septième de leur temps, c'était le sabbat. Maintenant, nous vivons dans la réalité, les ombres de la loi ont fait place à la réalité de l'évangile. Ce n'est plus une partie de nous-mêmes, de notre temps ou de nos biens que Dieu demande, mais la totalité. Il veut les sept septièmes, les douze douzièmes et les dix dixièmes. Mais voilà. Les hommes sont si retors. Ils mettent en épingle les détails religieux, comme par exemple la date de Noël, avec des évidences, à savoir, dans notre cas, que Noël est une fête dont la date est d'origine païenne. Ils attaquent les serviteurs de Dieu, les discréditent, semant le doute et la suspicion. D'autres parlent du dimanche, dans le même but. On sait bien que le dimanche est l'ancien jour païen du soleil. Et alors, je le répète, ce n'est plus un jour sur sept que Dieu veut que nous sanctifions, mais toute notre semaine. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette parole grave de Jésus-Christ, conducteur aveugle. Vous voulez vous couler le moucheron et vous avaler le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de l'aneth et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement de la miséricorde et la fidélité. » Et cette fois, j'ai cité la traduction de M. Darby. La miséricorde, l'amour, demandons-les à Dieu afin qu'il nous garde de juger hâtivement ou de soupçonner le mal, et qu'en même temps, Dieu nous fasse la grâce de nous détourner des doctrines spéculatives et fausses, nous rappelant que toute la vérité est dans toute la Bible, sa parole est que c'est elle tout entière qu'il convient de connaître et de pratiquer.